Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h34, le débat des grandes voix du vendredi avec à mes côtés ce soir l'enseignante et essayiste Barbara Lefèvre.
Bonsoir.
Bonsoir Barbara. Éric Scholl, directeur de la rédaction d'Express. Bonsoir Éric.
Bonsoir.
Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et je voudrais d'abord qu'on évoque ensemble ce documentaire choc complotiste qui fait grand bruit, partagé par des dizaines de milliers d'internautes sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Hold Up, bourré de contre-vérités, de fake news, présenté comme un film citoyen, musique anxiogène, théorie du complot, tout y est, financé par des plateformes participatives avec près de 300 000 euros récoltés. Et il est aujourd'hui relayé par des personnalités diverses, de Sophie Marceau à Christophe Willem. C'est édifiant, écoutez.
Le problème de la politique et de la politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharmas, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements. Donc il faut des malades. Donc leur politique, c'est le plus on a de malades, le plus on est riche. N'arrêtons pas la maladie.
Alors, il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a des vérités, et puis il y a des contre-vérités qui se mélangent dans ce film qui dure quand même 2h40. Mais quand même, le propos général, c'est qu'il y aurait un complot mondial caché derrière l'épidémie. Barbara Lefèvre, ça fait un carton sur les réseaux sociaux, ce film. De quoi est-il le symptôme, ce succès ?
Le succès, il est le symptôme du fait qu'il y a un certain nombre d'éléments factuels qui interrogent depuis le début de cette épidémie, que... lorsque des débats contradictoires ont eu lieu, il y a eu un camp, et en l'occurrence, le gouvernement a décidé qu'il y avait un certain nombre de sujets qui ne méritaient pas d'être débattus. Et du coup, ça alimente effectivement, dans les marges, des gens qui ont envie d'obtenir absolument des réponses. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des éléments factuels, des hypothèses qui sont posées, qui sont des hypothèses tout à fait légitimes dans ce documentaire, d'où vient le virus, est-ce qu'il y a une politique de la peur, est-ce qu'on a favorisé une politique de la maladie plutôt qu'une politique de la santé. Tout ça, ce sont des questions qui sont légitimes dans le cadre d'une crise sanitaire d'ampleur comme celle que l'on vit. Les réponses qui sont données et surtout la façon dont sont montées l'ensemble des réponses finissent toujours en point de suspension. Il n'y a pas véritablement dans ce film des affirmations complotistes du genre « la Terre est plate », etc. Il y en a quelques-unes. Hein.
Il y en a quelques-unes, quand même.
Il y en a quelques-unes, le Rivotril, qui aurait participé à une forme d'euthanasie légale dans les EHPAD, le fait que des médecins seraient payés pour déclarer des patients Covid qui ne le seraient pas. Il y a des mensonges. La question, pour moi, ce n'est même pas la question du complotisme. En fait, il y a des mensonges dans ce film, et il y a d'autres sujets qui sont des sujets qui méritent d'être explorés.
Oui.
Le problème, c'est de savoir est-ce que dans l'espace médiatique aujourd'hui, il y a véritablement la possibilité d'un débat contradictoire ou est-ce que finalement on n'est pas dans un discours mainstream où tout le monde dit plus ou moins la même chose et que forcément ça va laisser sur le côté des gens qui ont besoin d'avoir des réponses qui ne sont pas forcément les réponses complexes ou bien les réponses simplistes aussi, parfois le gouvernement...
Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a de la place pour le débat. La preuve, c'est qu'il y a des scientifiques qui sont accusés d'être trop rassuristes, d'autres
trop alarmistes.
Oui, mais regardez, les
rassuristes, depuis deux mois, les rassuristes, on ne les voit plus du tout sur les plateaux.
Moi, j'en avais un hier soir sur mon plateau, vous voyez.
Voilà, peut-être vous, mais sinon, ils ont quand même déserté les plateaux.
On continue de les entendre. Éric Scholl, réaction. Et c'est vrai que comme à chaque fois...
Oui, en même temps, s'ils ont déserté le plateau, c'est parce qu'ils ont raconté tellement d'âneries pendant des mois.
Voilà,
qu'il était temps qu'on arrête de les écouter. D'autre part, ce qu'on appelle un documentaire, c'est tout sauf un documentaire. Donc là, il faut rappeler les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'il y a 47 personnes qui interviennent dans ce film de propagande, parce que c'est un film de propagande, et ce n'est pas un documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Mmh. Moi, je fais un métier, c'est un métier de journaliste. Le principal de ce métier d'un journaliste, c'est de faire de la contradiction. C'est d'arriver à essayer effectivement de creuser, de trouver. On n'a pas toujours la vérité, donc on la cherche. Et notamment sur ces questions-là, vous avez tout à fait raison, on cherche en permanence à savoir est-ce que l'État s'est bien conduit, est-ce qu'il a mené une bonne politique de santé. C'est des questions qui sont légitimes. Mais arriver avec 47 personnes qui pensent peu ou prou à peu près la même chose. Et le principe de fake news, des fausses informations, c'est précisément d'y mêler du vrai pour essayer de semer en permanence la confusion.
Et d'y mêler, Éric Scholl, des témoignages de personnalités connues, dont l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui a découvert avec stupeur qu'il était dedans, et les propos qu'on lui portait, évidemment coupés, comme ça arrangeait le propos du film. Et comme à chaque fois dans les théories du complot, on se rend compte que le film, en fait, va plus vite que le temps qu'il faut pour démonter ces théories du complot. Emmanuel Dutheil.
Moi, je suis assez stupéfait par cela. Après, ça montre une chose extrêmement importante. Parce qu'on ne sait pas d'où vient ce virus et qu'on n'est pas véritablement capable de l'expliquer, ça génère effectivement beaucoup de peur et l'impression qu'on ment aux gens. Ça pose une grande question sur notre métier de journaliste, ça pose une grande question sur les politiques, sur le fait que la parole, par exemple, politicienne, n'a plus de poids. Parce que quand on voit la force de ce documentaire, moi je suis impressionné par la viralité. Voir que ça a seulement 3-4 jours, le fait que ça monte si vite. Et quand vous disiez tout à l'heure, c'est financé par des plateformes participatives. Non, c'est financé par des gens qui ont donné de l'argent sur ces plateformes participatives. Ça montre bien qu'il y a un nombre conséquent de personnes qui financent ce genre de choses. Ce qui est aussi, je vais utiliser peut-être un mot qui est mal fait, mais ce qui est dangereux à mon avis, c'est que ce documentaire reprend tous les codes du documentaire. Il disait, c'est pas un documentaire, c'est vrai, mais il reprend tous les codes. Comment voulez-vous, quand vous n'êtes pas habitué, vous dire que ce n'est pas un vrai documentaire? Quand vous voyez Philippe Douste-Blazy, moi c'est bien gentil, quand aujourd'hui il dit, je me suis fait avoir, moi j'aimerais bien qu'il nous produise le rush de son interview. C'est-à-dire qu'on voit véritablement les questions qui lui ont été posées à ce moment-là. Parce que quand vous regardez, moi je ne l'ai pas regardé en entier, mais j'en ai regardé quand même une bonne partie, je vois notamment sa partie à lui. Bah, les questions semblent assez claires et ses réponses sont assez claires. Donc c'est quand même impressionnant sur le manque de foi qu'il peut y avoir dans la parole scientifique et dans la parole politique.
Les complotistes du Covid, on en parle dans quelques secondes. 18h40, vous restez avec nous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours avec le débat des grandes voix du vendredi. 18h42, Barbara Lefèvre à mes côtés, Éric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, et Emmanuel Duteil, en charge du service éco d'Europe 1. Et on parle de ce film qui fait grand bruit et qui parle du Covid, en parlant notamment d'un complot mondial qui serait caché derrière l'épidémie par les grands de ce monde. C'est un film évidemment complotiste. Je voudrais qu'on en écoute un nouvel extrait et puis on en parle juste après.
Finalement, il n'est pas dangereux ce virus. Il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, puisqu'on a foutu des saloperies. Mais ce n'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir.
Par qui a été fabriqué ?
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur.
Pour le professeur, aucun doute. Le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à Wuhan ou ailleurs. Le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé.
Voilà, on est quand même dans un grand délire. Là. C'est le laboratoire Pasteur qui a fabriqué le virus de la Covid-19 et qui l'a répandu dans le monde entier.
C'est dommage qu'ils ne soient pas capables de trouver le vaccin, du coup.
Pardon ?
C'est dommage, du coup, qu'ils ne soient pas capables de trouver le vaccin.
Mais quitte à l'avoir fait, il faudrait trouver le vaccin. Cette fausse information-là, elle avait déjà été corrigée, puisque c'était des papiers de l'Institut Pasteur qui évoquaient en réalité, le SARS-CoV-1.
Oui. C'est-à-dire, ce sont des documents. Quand on prend tous les exemples du documentaire, enfin du film de propagande, on l'appelle comme on veut, mais tout a été corrigé. Oui. Mais c'est la mise en image et le récit qui constitue une force de frappe complotiste inédite.
Et avec les thèmes habituels que l'on retrouve, c'est-à-dire dans ce domaine de la santé, le ministère de la Santé contre ce qu'on appelle le Big Pharma. On retrouve les riches qui sont accusés, forcément, c'est Bill Gates, c'est Davos, etc. On va retrouver l'élite, tout un pamphlet contre l'élite qui a forcément tort. Et si vous voulez, tous ces thèmes-là, on les a entendus depuis déjà plusieurs années, ils sont revenus et on retrouve évidemment les anti-vaccins.
Mais on sent Eric Schell.
Ce qui me gêne dans la façon dont vous présentez les choses, c'est que vous dites que c'est des thèmes et ce seraient des thèmes qui seraient forcément faux. Est-ce que vous allez dire que Big Pharma, ça n'existe pas ? Big Pharma, au sens où les grands patrons des laboratoires assemblés dans une même pièce qui complotent, oui, bien sûr que ça n'existe pas. Néanmoins, il y a une réalité qui est celle des marchés financiers liés à la question des laboratoires pharmaceutiques. Bill Gates, vous voulez qu'on parle du vaccin contre le paludisme, qui a été une grosse arnaque, et aujourd'hui l'OMS a sur les bras des millions de doses de ce vaccin contre le paludisme qui n'a aucune efficacité, et on va aller faire des campagnes de vaccination en 2020 de ce vaccin que monsieur Bill Gates a mis en place avec Glaxo.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Bill Gates, c'est aussi celui qui a lutté contre la polio. Nous, on l'a interviewé il y a deux mois, et à ce moment-là, j'ai largement travaillé sur la grande campagne anti-Bill Gates qui est menée aux États-Unis. En France, on l'entend parler beaucoup en ce moment, mais si vous voulez, ça fait des mois qu'aux États-Unis, cette campagne anti-vax, anti-vaccin et anti-Bill Gates est menée.
On ne peut pas laisser à penser que la Covid est une création du laboratoire Pasteur.
Pas du tout, je n'ai jamais dit ça. Non, mais ce que je dis simplement, c'est que on dit Bill Gates a prétendu dans une espèce de TED, de conférence TED, voilà, de TEDx, qu'il pourrait y avoir une pandémie. Donc on imagine dans ce documentaire, ce qui est complètement hallucinant, qu'il avait prévu le Covid, etc. Mais par ailleurs, l'action de Bill Gates et de la fondation Bill et Melinda Gates est tout à fait, elle mérite d'être interrogée dans leur façon de faire de la com sanitaire, dans leur façon de mener leur politique, excusez-moi, de pseudo-vaccination contre le palu en Afrique, qui est en réalité de la com pour M. Bill Gates. Donc, si vous voulez,
je crois pas. Parce qu'on aimerait avoir une fondation comme ça en Europe, aussi puissante.
Ah bah peut-être vous, mais en l'occurrence, si vous êtes capable de faire complètement confiance aveuglément à M. Bill Gates...
Il ne s'agit pas de faire confiance aveuglément.
Puisqu'apparemment, dire que M. Bill Gates peut par ailleurs avoir eu une politique sur les vaccins
qu'on peut
interroger. Non, mais c'est pas ce qu'il
dit dans le documentaire.
Mais je suis d'accord avec vous. C'est ce que je suis en train de vous dire.
C'est
ce que j'essaie de vous dire. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous dire que à partir du moment où on évoque Bill Gates dans le documentaire de façon hors sujet, mais ça n'empêche pas ici, de poser des questions sur la réalité de l'action Bill Gates.
Non, sur Bill Gates, mais simplement, ça raconte aussi un état d'esprit de la société française en ce moment. Sur la défiance, on voit les chiffres sur les vaccins, par exemple, plus de 40% des Français disent qu'ils sont hostiles aux vaccins et qu'ils ne veulent pas se vacciner. C'est quand même incroyable. On pensait que la science était la dernière des institutions dans laquelle les Français accordaient une espèce de crédibilité. Ça n'est plus le cas, non. Emmanuel.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette crise est un révélateur de toutes les peurs que l'on a pu avoir et qui étaient peut-être plus ou moins enfouies ces derniers temps. Donc effectivement, un doute sur la santé parce que les gens se disent « Mais qu'est-ce qui va être ce vaccin contre le Covid ? Est-ce qu'il va vraiment être fiable ? Est-ce que je ne vais pas tomber malade ? Est-ce que je ne vais pas avoir des effets secondaires ?» Et donc, ça donne un doute global. Vous avez totalement raison. Mais pourquoi aussi on a ça ? Parce que on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un message clair et rassurant d'une autorité incontestable. Les Français voient quoi, par exemple, sur le Covid ? Que le gouvernement, mais ils n'y sont pas pour grand-chose, hein, tous les gouvernements dans le monde sont bien pareils. On n'avance pas. Un jour, on se confine, le lendemain, on se déconfine. On nous dit qu'on est bien déconfiné, mais on se rend compte qu'on n'est pas bien déconfiné. Donc, on ne peut pas reprocher à une frange de la population d'avoir des doutes. Et ce qu'elle montre, ce genre de documentaire, c'est une exacerbation. C'est français, ça, vous
savez ? Oui, on
peut
dire ça.
Des doutes que l'on peut avoir.
Allez, on marque une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix. 18h47.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, la suite du débat des grandes voix du vendredi avec toujours l'enseignante et essayiste Barbara Lefebvre, Eric Scholl, directeur de la rédaction de l'Express, et Emmanuel Duteil, chef du service éco d'Europe 1. Et ce soir, on continue d'évoquer le complotisme à travers ce film qui fait grand bruit, je le disais, sur les réseaux sociaux, partagé des dizaines de milliers de fois, des fake news, beaucoup en tout cas, sur une théorie du complot autour de la Covid. Et on entend par exemple dans le documentaire ceci.
Alors que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes, ce virus va jusqu'à faire construire des futurs camps d'internement au Canada.
Où ces camps seront-ils construits ? Combien de personnes seront-elles détenues ? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement ?
Alors, les camps d'internement, en fait, ce sont des chambres d'hôtel, hein, comme ça a été discuté un moment en France, ça n'a pas été appliqué pour d'autres raisons, mais des chambres d'hôtel pour permettre l'isolement. C'est le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a répondu en personne et qui a dénoncé une campagne de désinformation. Donc, on voit bien comment on tord aussi la réalité dans ce film propagandiste. Question pour vous, Éric Scholl, faut-il, par conséquent, légiférer ? C'est ce que disait ce matin, qui décidément nous surprend en ce moment, Yannick Jadot, après sa sortie sur les vaccins obligatoires, le député européen Europe Écologie Les Verts, il disait ce matin, il n'y a aucune raison que ce qui est interdit dans la rue ne le soit pas sur Internet. Éric Scholl.
C'est-à-dire ?
Pour légiférer, il faudrait interdire ce type de film propagande. Oui.
C'est compliqué parce que de toute façon, si on l'interdit, il arrivera d'une autre façon. Puis, je suis pas sûr que ça soit la meilleure méthode. Ce qui est encore plus compliqué, c'est de lutter argument contre argument, et notamment lorsqu'on utilise des arguments rationnels. Puisque là, on le voit bien, on est plutôt dans l'irrationnel. On est dans la provocation, dans la montée des peurs. Et donc, essayer pied à pied de répondre à ce type d'argument, c'est aussi accepter, qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, qu'on n'a pas forcément les réponses à tout. Mais au fond, c'est assez logique. Est-ce que vous connaissez un événement qui nous aide, nous tous, autant impacté depuis 50 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale, aucun. C'est sans doute dans nos vies quotidiennes, venant de l'extérieur, sans doute l'événement, ce Covid, cette crise de Covid qui nous impacte le plus. Donc c'est normal que ça crée à la fois des peurs, des craintes, et en même temps on s'aperçoit, on parlait de la science tout à l'heure, que les scientifiques eux-mêmes débattent. Ils n'ont pas eu une réponse immédiate, ils ne l'ont pas encore aujourd'hui. On voit, en revanche, il y a une autre façon de prendre le sujet, on peut voir les progrès, tout ce qui a été accompli par les scientifiques depuis le printemps. Les annonces qui ont été faites en début de semaine par Pfizer montrent qu'il y a quand même des progrès vers un vaccin, et c'est une autre façon de prendre le problème qui n'est pas dans le domaine des peurs telles qu'elles sont entretenues.
Mais qui est hallucinant, c'est que ça conforte qu'on a, d'ailleurs ça fait une passerelle, ce qu'on a observé pendant 4 ans avec Donald Trump aux États-Unis et ce qu'on continue d'observer dans son élection et le refus de, d'admettre sa, sa défaite. C'est-à-dire que la vérité n'existe plus, il n'y a plus de vérité.
Mais ça, c'est pas, c'est, enfin, il n'existe plus de vérité. C'est le principe même de la post-vérité dans les démocraties postmodernes. Et ça, ça n'a rien à voir avec le populisme, ni de Trump, ni des complotistes, ni de ceux qui croient pas au 11 septembre ou de ceux qui croient que la Terre est plate. On est dans un monde qui est sur des régimes de vérité tout à fait pluriels.
Mmh. Et enfin, la Terre est ronde, ça c'est une vérité.
Oui, la Terre est ronde, mais si vous voulez, vous pouvez avoir aujourd'hui, quand vous êtes enseignant et que vous avez dans vos classes des gens qui vous expliquent que eux, leurs croyances, leur religion, par exemple, leur commande de ne pas croire tel ou tel fait historique ou tel fait scientifique, vous n'avez, je le dis clairement, vous n'avez quasiment pas de prise sur ça, parce qu'eux sont dans le domaine de la croyance, dans le domaine de la foi ou de la croyance.
Mais donc, ça questionne pourquoi est-ce que ce qui n'est pas vrai est plus séduisant qu'une vérité qui nous est énoncée.
Mais parce qu'aussi, on est dans un espace aujourd'hui, la postmodernité, c'est aussi ça, c'est la mise en équivalence de toutes les paroles. C'est-à-dire qu'avant, l'enseignant, par exemple, avait une forme de parole d'autorité. Le journaliste avait une parole d'autorité. Le politique avait une parole d'autorité. Aujourd'hui, on a décidé, dans les années 80-90, que finalement, toute parole se valait, tout était égal, et qu'il ne pouvait pas y avoir de hiérarchie, parce que toute forme de hiérarchie de parole sous-entendait un dominant, un dominé. Bon. Donc, à partir du moment où on égalise toutes les paroles et où tout se vaut, et Twitter est l'espace où tout se vaut, je veux dire, s'il y a bien un endroit qui est parfaitement égalitaire et aussi parfaitement niveleur et parfaitement stupide, c'est bien, ce sont bien les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas étonnant que tout le monde like Sophie Marceau, Carla Bruni, tout le monde like un documentaire que personne n'a vu, mais ce n'est pas grave parce que c'est le grégarisme de Twitter. Et le grégarisme de Twitter, c'est ça, c'est la mise en équivalence de toutes les paroles. C'est pour ça que je suis très choquée que Yannick Jadot considère que réaction liberticide, on interdit. Mais on n'est pas en URSS. Il n'y a pas de raison d'interdire. Par ailleurs, on n'interdit pas...
Eric Schell a raison, ça serait contre-productif si on veut...
On n'interdit pas les mensonges de Tahabouaf, donc je ne vois pas pourquoi on interdirait les mensonges de ce documentaire
ridicule. Dutheil.
Moi, je trouve ça complètement idiot de vouloir l'interdire. Ce serait la pire des choses, justement. Il faut se saisir de cela pour essayer de débattre fait contre fait avec ce que l'on peut avoir et en admettant que nous-mêmes, dans ce qui est une position qui semble plutôt commune dans ce studio, on peut se tromper, on peut ne pas tout savoir. Quand vous dites tout à l'heure pourquoi ce qui est vrai ne porte plus, c'est parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est faux dans ce genre de, dans ce genre de sujet. C'est très compliqué d'avoir une position.
Non, mais au milieu du flou, il y a quelques vérités.
Ce qui pose aussi problème, et on en est tous, peut-être là l'exemple immédiat, à chaque nouvelle crise, vous avez des spéciologues qui sortent du banc à 200 et qui connaissent tout. Et le lendemain, quand c'est l'élection américaine, on en a à nouveau 200 qui sortent. Je pense qu'on a tout un travail à faire d'autorité, quand je dis autorité morale, pas autorité.
Eric Schell.
Oui, et puis c'est un business assez juteux pour ces spéciologues ou ces spécialistes de tout genre qu'on a vu émerger. Je prends le cas de Christian Perron, qui est présent, très présent dans ce documentaire, et qui a écrit, qui a commis un livre au printemps dernier. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise à propos du Covid ? Son livre s'est vendu à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires.
100 000
exemplaires. Et voyez que c'est un bon business que d'aller à la limite dans les fake news, un peu de vraie information, et c'est ce que fait ce documentaire.
La Une de l'Express cette semaine.
Le livre de Perron n'a pas été attaqué en justice pour des mensonges. Hein.
Good luck, vous me l'a montré.
Good luck avec
un dessin de Donald
Biden,
Trump. Ah non, c'est Joe Biden.
Joe Biden,
bien sûr.
Dans le bureau de la Maison Blanche, mais on voit l'ombre de Donald Trump qui n'est pas loin.
Bien, merci Barbara Lefebvre, merci Eric Schell, merci. Merci à toi Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.